la grande fuite, la radio.
La seule émission qu'on cherche.
Qui se barre.
Qui fugue.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue pour la troisième édition de La Grande Fugue sur Studio ZEF. Et nous allons commencer par un petit tour de table. À ma gauche.
Et donc à la console, Xavier. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, c'est Déborah. Et à côté de moi...
Bonjour, c'est Théo Cook, Clarine de Sommery.
Moi, c'est Leslie.
Eh bien voilà, nous espérons que vous êtes bien installés. Nous sommes dans les murs du château.
C'est qui toi qui parle là-bas avec ton petit micro ?
Eh bien moi, c'est Anaëlle.
Bonjour Anaëlle.
Bonjour.
Bonjour Anaëlle.
Donc nous sommes au château de Sommery, dans la bibliothèque, bien installés, et on va vous faire un peu dans le prolongement du premier opus de La Grande Fugue à Studio ZEF, des lectures de textes choisis par les patients avec des commentaires sur qu'ils ont aimé de leurs textes.
Parce qu'on a choisi de faire une émission sur...
Le livre.
Le livre.
Eh bien, on va commencer. Il y a Cynthia et Yannick qui viennent de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Xavier.
Bonjour, je suis désolé, l'autobus était complet.
Bon, le principal, c'était de nous rejoindre. Et donc, il était complet, mais est-ce que vous êtes venu avec un texte ?
Oui.
Ah.
Oui, moi aussi.
Ah. Super. Eh bien, on vous écoute, Cynthia.
Alors, moi, je vais vous lire un petit passage du livre d'Isabelle Dizesquel. Le titre est « Je me souviens de tout ». Tu resteras un peu dans la grande maison ? Tant de fois, je me suis abritée entre ces murs où nos murmures résonnent encore. Tout à côté, accroupie sur la pierre plate du torrent, je restais là des heures. Son flot, me disais-je, finirait bien par te mener jusqu'à moi. Je plongeais ma main dans l'eau glacée et l'obligeais à y demeurer. Plus mes doigts deviendraient gourds, plus vite tu voudrais les réchauffer. L'été, je ramassais des brassées de paille fraîche, en frottais mes bras et mes genoux. Je les léchais pour mieux respirer leur odeur de lait cru. En m'allongeant sur la paille, je cherchais ton corps pour y grimper et me protéger des picotements. À chacun de mes anniversaires, j'espérais un signe. Mon cœur s'emballait en pure perte. Au prix d'une confiance en toi sans faille, je suis parvenue à vaincre le désespoir, mais la mort, je le sais maintenant, est patiente et têtue. Je t'aime, Laure, je t'aime. Tu ne me l'avais jamais dit. Serre-moi fort, avec ma tête tout contre ton cœur. C'est lisse et doux comme avant. J'aime comme tu es imberbe. Cela ressemble à l'enfance. Caresse mes boucles comme si elles étaient encore là. J'aimais tant sentir tes mains dedans, j'en tremblais. Tu sais, Lucas, le papillon en fleurs, ils l'ont rasé pour une buvette. Comme si un papillon ne pouvait s'envoler et se poser à volonté. Tu m'aimes ? Répète-le, juste pour le plaisir de l'entendre encore. Lucas, pourquoi tu ne dis rien ? Mais réponds-moi, Lucas, parle-moi, Lucas. Qui est là ? C'est vous, Catherine ?
C'était fort, hein ?
Fort, oui. Dans les émotions, oui. Un texte qui parle d'amour, comme vous avez bien compris.
Qui nous fait sentir des petits frissons partout, hein ?
Oui, des frissons, des picotements, comme ils disent dans le livre.
Merci.
Merci.
Bon, ça va être... dur d'enchaîner avec ça, Yannick, tu as un petit texte aussi.
Donc moi je vous propose l'adresse au lecteur qui préface la vie trésorifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, de Rabelais.
On reste dans les plaisirs de la chair.
Amis lecteurs qui se livrent lisés, dépouillez-vous de toute affection et le lisant, ne vous scandalisez, il ne contient mal ni infection. Vrai est ici peu de perfection, vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et vous consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme.
Merci. Un petit mot sur le choix du texte.
Rabelais est un auteur qui a été censuré en son temps parce qu'il avait offensé beaucoup de monde par ses écrits, qu'aujourd'hui encore beaucoup prennent facilement offense et que souvent il vaut mieux rire des choses qu'en pleurer.
Eh bien, merci pour cette belle morale. Leslie, tu veux nous lire ton texte ?
Oui, bien sûr. C'est en 1913. Elle était là, à quelques pas de moi. Je l'observais aussi aisément que si j'étais près d'elle. À l'intérieur de l'école, elle me fascinait, mais je n'aurais su dire pourquoi. Peut-être à cause de son prénom, Cécile, ou peut-être parce qu'elle venait d'ailleurs, qu'elle avait une façon particulière de se comporter, de marcher, de parler, de sourire, de vous regarder. Il a fallu des jours et des semaines pour que cette pellicule de merveilleux qui l'enveloppait se détache d'elle, parlant beau, pour qu'elle nous devint plus proche, qu'elle se banalisât à notre contact. Déjà souchée dans mon arbre, je cherchais par-dessus le mur de l'école communale, ce qui pourrait inciter à la détester. Quelle était la faille, le point faible qui annulerait entre elle et moi, entre elle et les gens de Saint-Roch, ses distances et ses différences. Dans les premiers temps, je n'éprouvais pour elle que curiosité. Je la regardais comme on contemple un étrange oiseau voltant en tous sens. Sa cage, et c'est bien l'impression qu'elle me donnait. Assise dans mon arbre, sans la quitter de l'œil, je me répétais son prénom, Cécile. Je la sautais comme ces bonbons acidulés en forme de demi-lune, où la dent s'enfonce dans une pâte molle avant de trouver le cœur craquant du sucre.
Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ce texte, ce qu'il en est ?
C'était le choix des mots et l'idée de la rencontre et de la découverte.
D'accord, très bien. Et on a oublié de préciser que c'était tiré du livre de Michel Peramore qui s'appelle
L'Orange de Noël.
Très bien, merci. Merci Leslie. Quelqu'un d'autre ?
Eh bien oui, je vais vous lire un poème d'un célèbre écrivain. Vous me direz si vous reconnaissez qui c'est. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Et c'était donc un texte de...
Jacques Martin.
Et non, Jacques, oui, mais Jacques...
Jacques Brel.
Non, Jacques Prévert.
Le cancre de Jacques Prévert. Eh bien, merci Annaëlle pour cette lecture. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ce texte ?
Oui, j'ai choisi ce texte parce que je trouve qu'on a tous un petit cancre en nous qui s'exprime parfois et on a du mal à le laisser exister parce qu'on doit toujours bien faire, bien plaire. Et finalement, on a le droit d'être un cancre de temps en temps.
Puis ça fait rire les autres.
Voilà.
Eh bien, merci. On va faire une petite pause musicale avec Louane, si tu étais là, et puis on se retrouve après pour une chronique.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les faux c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Sur Studio Zef.
De 14h à 15h. Tous les lundis.
La Grande Fugue.
L'émission qu'on cherche, qui se barre, qui fugue. Eh bien, retour sur le plateau avec maintenant une petite chronique préenregistrée par Taylor qui n'est pas avec nous. Voilà, mais il doit nous écouter alors qu'il est.
Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un très bon choix de lecture, en tout cas à mes yeux, d'un manga de type shoujo. Donc d'un super manga qui se nomme Kaze-san. Écrit et dessiné par la mangaka Hiromi Takashima. Donc c'est une très belle histoire d'amour entre deux jeunes filles qui sont dans le même lycée, qui malgré leurs personnalités très différentes et leurs activités très différentes, s'entendent à merveille, sont très fusionnelles et vont très rapidement tomber amoureuses. Sauf que l'une des deux, qui est plus passionnée par les plantes, est beaucoup plus réservée, n'arrive pas à concevoir qu'elle peut aimer une fille et sortir avec une fille, tandis que la jeune fille dont elle est amoureuse, donc Kaze, qui pour le coup est déjà sortie avec des filles, donc malgré ces petites difficultés entre elles, elles vont quand même pouvoir commencer une belle histoire d'amour très, très fusionnel, très eau de rose, très bonbon, très romantique, voilà.
Qu'est-ce que c'est un manga shoujo?
Alors, un manga shoujo, c'est un manga qui est ciblé sur des histoires d'amour romancées, romantiques, à l'eau de rose et fleurs bleues. Et J'avoue que moi, j'aime particulièrement les shoujo parce que j'aime particulièrement les histoires d'amour bien fleur bleue. Et j'en ai lu d'autres aussi, bien sûr. Mais du coup, celui que je vous ai présenté, c'est devenu un de mes préférés en peu de temps. Mais vraiment, c'est une très, très bonne lecture.
Et comment tu as découvert ce manga ?
Je l'ai découvert lors d'une soirée lecture tisane avec Jérémy, où on lisait un livre ou une BD autour d'une tisane. Et je cherchais des mangas à lire de type shoujo. Et c'est là que j'ai vu le premier tome. J'ai commencé à le feuilleter et je l'ai lu durant toute la séance de lecture tisane.
Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce manga, pour avoir retenu ton attention comme ça ?
Bah déjà, ce qui a retenu mon attention, c'est que pour une fois, ce n'est pas une histoire d'amour ciblée sur une histoire d'amour hétérosexuelle. Et c'est que je n'avais encore jamais lu de shoujo dans une histoire d'amour entre femmes. Et pour moi, je recherchais un petit peu ça aussi. Ça me semblait important de pouvoir lire d'autres types de shoujo qui ne soient pas que des histoires d'amour hétérosexuelles.
Est-ce que d'un point de vue général, les mangas, c'est plutôt conservateur ?
Disons que je pense aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus dans les mangas, mais la plupart des mangas que j'ai lus étaient très ciblés sur des histoires hétérosexuelles. Après, je connais pas tous les shoujo non plus, mais en tout cas dans le peu que j'en ai lu, c'était surtout basé sur des histoires d'amour hétérosexuel avec peut-être quelques allusions à une attirance homosexuelle, mais sans plus que ça.
Le manga, il est arrivé dans les quelles années ?
En France, je dirais années 70, quelque part par là. Je suis pas sûr de moi, mais ça doit être dans les années 70, je pense.
D'accord.
Alors, je voulais savoir, Taylor, si en fait, tu as parlé que l'autrice était justement une femme de ce manga. Je voulais savoir si ça faisait une différence par rapport à d'autres types de mangas que vous avez pu lire. S'il y avait vraiment une différence entre un auteur ou une autrice de manga.
Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que la plupart des mangaka hommes ciblent leur histoire sur des personnages masculins la plupart du temps, tandis qu'effectivement, les mangaka femmes vont cibler leur histoire sur des personnages plutôt féminins. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple de mangaka femme dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui a écrit et dessiné un manga incroyable, le tout premier shoujo que j'ai lu, qui s'appelle La Rose de Versailles, que je pense que pas mal de gens doivent connaître autour de cette table. Où, effectivement, les personnages ciblés dans La Rose de Versailles sont des personnages féminins. Et c'est une mangaka femme, effectivement.
Et quand tu as lu les mangas sur les livres, qui a des choses qui t'ont inspiré, est-ce que après t'as créé des histoires en faisant des mangas toi-même par écrit ?
Alors, moi, j'aimerais beaucoup effectivement réaliser des scénarios de mangas parce que j'aime beaucoup dessiner, mais c'est pas ce que j'aimerais faire le plus si je voulais moi-même écrire un manga. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà eu pas mal d'idées de scénarios qui pourraient être de bons scénarios de manga, ouais.
Et c'est très intéressant parce que un jour, on aimerait bien de voir tes histoires que tu as écrites. Quand tu seras prêt et tout, parce que je pense que tu vas vraiment réussir de pouvoir faire un vrai manga par écrit et peut-être devenir un auteur de manga un jour.
Et est-ce que tu as lu d'autres types de mangas ?
Alors oui, bien sûr, j'ai lu le manga Black Butler qui pour le coup n'est pas un shoujo. Alors, je ne sais pas du tout pour le coup de quel type de manga il s'agit, mais ce n'est pas un shoujo en tout cas.
Je vois le visage de Leslie qui s'illumine. Peut-être qu'elle va pouvoir nous en dire quelques mots.
C'est un manga et animé. L'histoire, c'est un jeune garçon qui s'appelle Ciel, qui est orphelin, qui a perdu ses parents dans un incendie. Et il rencontre plus tard un démon qui va devenir son majordome.
C'est un manga très connu et les deux personnages sont vraiment très connus, mais je ne me souviens plus du nom du majordome.
Alors moi, Taylor, je voulais revenir sur la thématique de ton histoire, qui est une thématique homosexuelle.
Oui.
Et le fait que c'est lieu au Japon, est-ce que le Japon est plus et te semble un pays ouvert d'après ce que tu as vu dans le manga? Est-ce qu'il y a des restrictions dans l'école? Enfin, est-ce que tu as vu des choses particulières sur cette thématique parce que c'est japonais? Ou pas.
J'ai plus remarqué ça sur le comportement d'une des deux héroïnes qui en tout cas qui en ressentant de l'attirance pour l'autre fille Kazée, Yamada, donc la jeune fille qui est amoureuse de Kazée, n'arrive pas à concevoir que elle peut être amoureuse d'une femme et donc elle refoule ses sentiments beaucoup au début et malgré tout l'histoire de ces deux héroïnes est très fusionnelle, elles se connaissent très bien, elles passent beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai que grâce à Kazée, qui assume ouvertement son homosexualité et est déjà sortie avec d'autres filles, pour le coup, Kazée va aider Yamada à beaucoup plus s'ouvrir. Ouais. Mais en soi, ça reflète pas plus que ça de la culture japonaise autour de la question de l'homosexualité, mais c'est qu'en tout cas non, on voit pas d'homophobie, on voit pas de restrictions en tout cas dans le manga, mis à part la mentalité de la jeune Yamada qui a beaucoup de mal au départ à s'offrir au fait qu'elle puisse aimer une femme.
Alors moi, j'avais une petite question pour Leslie. Tu nous as dit que le démon devenait le majordome de l'héroïne ou du héros, je me souviens plus. Mais alors, c'est un gentil majordome ou c'est un méchant majordome qu'il devient ?
Il devient gentil.
Ah bah, tout va bien alors.
C'est comme le manga, alors finalement, il se termine bien. Ça se finit bien, on peut le lire. On va pas pleurer à la fin.
Lequel de manga? Le mien? Je n'ai pas encore terminé la série et je viens de finir le tome 3. Donc j'imagine que ça se termine bien, en tout cas je l'espère. Oui.
En tout cas, à vous entendre, ça semble être un art plutôt positif.
Oui, effectivement, plutôt positif, tout à fait. Oui.
Eh bien, écoutez, pour ceux qui seraient intéressés pour la lecture de ce manga, il s'appelle Kazan, les belles de jour pour le tome 1. Et il y a aussi le manga de Leslie, Black Butler. Et ça donne vraiment envie de se mettre à la lecture de manga. Et je compte sur vous pour nous présenter d'autres mangas.
Eh bien, nous revoilà ensemble. On va faire une petite pause musicale avec Big Time Rush and Jordan Sparks. Vous remarquerez mon super accent. Continue on you. About to give you my heart, but remember this one thing, I've never been in love before, so you gotta go easy on me. I heard love is dangerous, and once you fall you never get enough, but the thought of you leaving ain't so easy.
understand I've been here before. Thought I found someone I finally could adore.
But you failed my test, gotta know her better.
So I wasn't the only one. But I'm willing to put my trust in you. Maybe you can put your trust in me.
Just like a count of three, you can count on me. And you're never gonna see.
No numbers in my pocket. Anything I'm doing, girl, I drop it for you. Cause you're the one I'm giving my heart to. But I gotta be the only one.
Sur Studio ZEF.
De 14h à 15h. Tous les lundis.
La Grande Fugue.
L'émission qu'on cherche, qui se barre, qui fugue.
Eh bien, maintenant, c'est Xavier qui va se livrer à un exercice de style. Du livre tiré du livre Exercice de style de Raymond Queneau.
C'est le cas de le dire. Et oui, donc j'ai choisi le livre Exercice de style de Raymond Queneau. Je vais vous lire le.
Comment
le...
il s'appelle ce livre ?
Exercice de style.
Ah, c'est ça.
Ah. Voilà, je vais lire le texte original et je vous expliquerai la suite. Dans l'Est, à une heure d'affluence, un type dans les 26 ans. Chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. Donc voilà, oui, petite question peut-être. Ouais, voilà, j'ai choisi ce texte parce que bah, je suis très fan de Raymond Queneau et j'aime beaucoup les jeux de style qu'il a pu faire, notamment dans ses romans, dans ce livre Exercice de style. Donc on part de ce texte original et puis il y aura toute une variation de ce texte.
C'est maintenant Théo qui va nous présenter son texte.
Alors, c'est un livre sur l'histoire Dernier Soupir. Figée à l'entrée de la chambre, Kylie Brooke balaya la pièce déserte, du regard paniqué. Un vent glacial s'engouffrait dans la pièce par la fenêtre, entrouverte, faisant claquer le rideau. Telle la voile d'un bateau, la bourrasque soulevait les bords de la feuille de papier posée sur la table de chevet. La page arrachée à un manuel scolaire avait été pliée et déposée sur le bien le plus précieux de sa sœur, Jess. le collier de coquillage qu'elle avait reçu pour son 18e anniversaire. Un an plus tôt, se précipitant vers le billet, la gorge nouée de froid, la jeune Kali, alors âgée de 16 ans, prit connaissance du message. Je m'en vais, je ne veux plus vivre ici. Donc j'ai pris ce livre sur mon téléphone parce que j'adore les livres qui racontent des histoires. Donc voilà.
Très bien.
Eh bien, merci. Ensuite, je crois que c'est Déborah qui va nous lire un texte qu'elle a choisi.
Ah, quel texte ?
Ah, j'ai changé. J'ai choisi un texte de Cyrano. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Attention. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme.
Magnifique.
Merci.
C'est plus court que tout à l'heure.
Merci. Oui. Hein.
Tout à l'heure, je les ai embêtés avec la tirade du nez que je n'ai pas reprise, fort heureusement.
Alors, tu peux nous expliquer ce revirement de situation ?
Eh bien, je suis descendue, je suis passée du nez aux lèvres.
Non, mais... Ce passage est magnifique, en tout cas. Hein.
Mais c'était difficile de choisir des passages, en tout cas.
Mais il doit bien avoir une signification pour toi.
Bah, il fait rêver.
Bah oui.
C'est difficile de choisir des textes quand on s'y prend un petit peu la dernière minute. Oui, on a un petit peu sur la fin de la préparation de l'émission. Sans
transition.
Transition. Petite interlude musicale avant de conclure cette émission avec Tracy Chapman, Talking About the Revolution.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds useful. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution.
talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
La Grande Fugue, la radio.
Une radio collective, la classe.
Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Moi, Anaëlle, j'en retiens en tout cas que c'était un vrai remue-ménage de choisir un texte dans cette grande bibliothèque de Sommerie qui est dotée de milliers de livres. Et c'était une chouette expérience. Et puis, ben, on va vous faire un petit agenda pour le mois de décembre.
Oui.
Oui.
Yes. Yeah.
Alors, le 7 décembre, il y a le marché Noël à l'étendard.
C'est quoi l'étendard?
L'étendard, c'est une association de Blois qui se situe en bord de Loire et qui accueille des gens... qui fabriquent ou qui font diverses activités. Et donc, ils ont leur marché Noël le 7 décembre. Après, nous avons le 13 décembre, le marché Noël de Sommerie. Et voilà, donc du coup, le marché Noël de Sommerie de 14h à 17h. Certainement dans le salon vert ou au long du château, dans les différentes pièces.
Est-ce qu'il neigera?
On espère qu'il neigera.
Mais priez pour qu'il neige, vous inquiétez pas. Je sais que le 2 va m'écouter, j'étais assez sage.
D'accord.
Noël sous la neige. Christmas in the snow.
Voilà, une autre date en décembre.
Le 24.
Ah, mais il y a quoi le 24?
C'est quoi, Théo, le 24?
Le 24, le soir, c'est le dîner, enfin, c'est le réveillon de Noël jusqu'au 25. Et 24 au 25.
Ah.
Et le nouvel an, c'est du 31 au 1er novembre.
Non.
Au 1er janvier, pardon, qu'on va fêter la première année 2025.
Ah,
chouette alors.
Et bon. Ouais, ça va être du festival.
Tout ça pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine avec une nouvelle émission.
Un nouveau thème.
Joyeuses fêtes.
Merry Christmas.
Et bonne année pour ceux qui ne seront pas là pour le 24 du 25. Enfin, du 31 au 1er janvier. Mais on va vous fêter de toute façon en janvier quand vous serez là.
Voilà.
Merci.
La bonne année.
Bonne fin de journée à vous tous.
La Grande Fugue, la radio.
La seule émission qu'on cherche.
Qui se barre.
Qui fugue.